aujourd'hui, c'est le qui mange des rameaux. Je vais en parler, je ne vais pas développer, mais je vais en parler un peu. Par contre, je vais parler de tout le contexte. Jésus est en route, en fait, vers Jérusalem. Et on va lire à partir dans Matthieu, à partir du chapitre 20 et jusqu'au 27 à 21-17. On ne va pas tout lire, je vous mettez-le sous vos yeux et je ferai référence au texte parfois. Et parfois, je le citerai sans faire de référence. Matthieu 20, à partir du verset 17, et on ira jusqu'à 21-17. Il y a plusieurs choses qui se passent. Et chacun de ces événements est une facette, une manifestation du caractère de Christ. Il avance, il est en train d'avancer vers la croix, il est à une semaine de la crucifixion. Son arrestation est pour dans quelques jours. Et il continue à travailler, il augmente même, on va dire, son activité pour faire connaître Dieu, le véritable Dieu, à ceux qui pensaient depuis des siècles connaître Dieu. Et à faire savoir aussi qu'il est lui le Messie, qu'il est le véritable Messie, celui que tout le monde attend depuis si longtemps. C'est lui qui est le Messie. Et donc il va, en marchant, il va accomplir des choses, il va guérir des aveugles, des infirmes, il va se faire acclamer, n'est-ce pas, en rentrant à Jérusalem comme un roi. Il va rentrer dans le temple, chasser les vendeurs du temple. Et tout ça, donc, une semaine avant sa crucifixion. Et il se passera encore d'autres choses. Mais donc, il est là pour se présenter comme le Messie. Celui dont parlent les Écritures. Et donc, les choses qu'il va faire vont aussi faire référence à des prophéties de l'Ancien Testament. Et donc, ce qu'il veut, c'est que tous les spectateurs, tous les auditeurs, et aussi les disciples, puissent le voir tel qu'il est, voir, comprendre son caractère. Parce que pour les disciples, c'est vital qu'ils sachent ce que c'est que de vivre comme un disciple, c'est-à-dire comme ceux qui suivent Jésus-Christ véritablement. Parce que le Saint-Esprit va venir. Et le Saint-Esprit va donner à ses disciples premièrement et à tous les hommes ensuite le caractère de Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de Christ qui est envoyé par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans un des textes, mais il le dit ailleurs aussi, dans Romains 8, 29, il dit: ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tous ceux qui, depuis Jésus, ont reçu le Saint-Esprit manifestent le même caractère que Jésus-Christ. Et donc, tout en se déplaçant, Il parle à ses disciples et il leur annonce ce qui va se passer dans quelques jours. Hein, vous le lisez dans je vais juste le citer parce qu'en fait, sinon ça va me troubler dans mon développement. Mais bref, il leur annonce qu'il sera livré aux principaux sacrificateurs, et aux scribes, qu'il sera condamné à mort. Et qu'il sera livré aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et ensuite, il ressuscitera. Ça, c'est ce qu'il leur annonce. Il leur dit ça, comme ça. Et dans ce contexte, la maman des fils de Zébédée a une attitude assez opportuniste, n'est-ce pas ? Et elle demande à Jésus de pistonner ses enfants pour qu'il soit aux meilleures places, assis à droite et à gauche, à sa gauche, dans son royaume. Et Jésus profite, en fait. Il s'offusque pas vraiment de la situation. Il profite de ce dialogue, de cette intervention de la maman des fils de Zébédée pour leur donner un enseignement extrêmement fort. Verset 22. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Et ensuite, il se ravise. Parce qu'ils répondent, « Nous le pouvons, dirent-ils. » Ils disaient ça, alors sans aucune connaissance de ce qui allait se passer, mais ils étaient décidés à prendre les meilleures places. Donc ils étaient prêts à tout, n'est-ce pas? C'est un peu comme les élections présidentielles. Moi, président, tout est possible. Donc là, c'est pareil. On peut boire la coupe. Et Jésus dit, en fait, oui, c'est vrai. Vous allez la boire. Vous allez la boire. Vous ne savez pas encore de quoi vous parlez, mais vous allez la boire, c'est sûr. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus donc se sert de cette discussion pour expliquer aux disciples comment, dans l'économie divine, on devient quelqu'un de performant. N'est-ce pas ? C'est le monde aujourd'hui. C'est la performance. Alors Jésus va vous dire et me dire, pour être performant, eh bien, si tu veux être le plus grand, alors tu dois être le serviteur. Si tu veux être le premier sur la liste, celui qui fait le meilleur résultat, tu dois être le serviteur de tous ceux qui sont en dessous de toi. Si tu veux être le premier, eh bien, tu dois aussi être l'esclave. Et il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Et donc, quand Jésus parle de cette façon-là, ce n'est pas un enseignement. C'est un exemple. Jésus n'est pas en train de donner le mode d'emploi. Et c'est quand on lit la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à comprendre. Recevoir la parole de Dieu en nous, ce n'est pas recevoir un enseignement. On ne peut pas enseigner la grâce. On peut le faire, mais ce n'est pas parce qu'on le fait que ça devient vrai. Et Jésus n'est pas en train de leur donner le mode d'emploi de la réussite en tant que disciple. Il est en train de leur dire, ce qu'il faut faire, c'est ce que moi je suis en train de faire, et vous le ferez parce que vous boirez la coupe que je dois boire. Et la grâce est à cette condition, n'est-ce pas ? La grâce n'est pas gratuite. Elle coûte la vie. Elle coûte la vie du Fils de Dieu, mais elle coûte la vie de tous les fils de Dieu ou tous les frères, ceux qui viennent après Christ. Parce que c'est la négation de soi-même qui fait que nous devenons les premiers. Ce n'est pas parce que nous avons suivi un enseignement et respecté un enseignement que nous le devenons, c'est parce que nous vivons l'exemple de Christ par le Saint-Esprit. Nous manifestons la vie de Christ par le Saint-Esprit. C'est la condition de la grâce. Et les enseignements peuvent être justes, peuvent être faits. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions lire les choses et les comprendre avec notre tête. Mais il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Et c'est ce qu'il est en train de vous montrer. N'est-ce pas? Il avait déjà montré la première partie, c'est-à-dire comment être serviteur. C'est ce qu'il avait fait durant tout son ministère. Il avait servi les hommes. Et il a servi y compris ceux qui allaient le crucifier. Et l'étape suivante, si vous voulez être le plus grand, alors il faut donner votre vie. Et c'est ce que je vais faire. Et donc, la manifestation de la grâce, elle se fait de cette façon-là. La grâce a un coût. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous emmène dans cette direction-là. L'homme ne veut pas mourir pour son frère. C'est pas vrai. L'homme veut mourir. Il peut mourir pour des idéaux, il peut mourir parce qu'il est têtu, il peut mourir pour plein de raisons. Mais qui veut mourir pour celui qui va le crucifier? Il n'y a qu'un cœur transformé à l'image de Christ qui peut le faire. Et on ne peut pas l'inventer. Donc Jésus n'enseigne pas. Il exemplifie ce qu'il dit et il dit « Ce que moi je suis, vous le serez ». L'apôtre Paul dit la même chose, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs », il n'est pas en train de dire « Imitez-moi dans le sens « Faites exactement les choses que je fais, marchez dans mes pas et suivez-moi pas à pas comme... » Voilà, c'est « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ », mais évidemment par la puissance de Christ en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si c'est moi qui vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Enfin, tel il est, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. C'est Christ manifesté. Et c'est ça qui fait la différence, finalement, dans le monde. Beaucoup se disent chrétiens, et beaucoup dans le monde regardent les chrétiens et disent « Si ça, c'est des chrétiens, alors c'est bon, moi je suis aussi bien qu'eux. Qu'est-ce que je vais changer ?» Mais s'il n'y a pas quelque chose qui vient faire la différence, et c'est l'Esprit de Dieu qui permet cela, lorsqu'il est là, lorsqu'il est manifesté, eh bien, l'Esprit de Dieu peut faire la différence. Et l'apôtre Paul dit, à moins que vous ne soyez réprouvés. Si on est réprouvé, l'Esprit de Dieu ne parle pas au travers de nous, c'est tout. Ils continuent leur chemin. Il passe par Jéricho, et en sortant de la ville, et là, il y avait la foule, hein, il y avait du monde. Jésus commençait vraiment à être connu et suivi, et donc il y avait là du monde. Et il passe là, et il y a des aveugles. Alors, un aveugle, deux aveugles, ça dépend des évangiles que vous lisez, mais... Il y a là deux aveugles sur le bord du chemin. Et ils comprennent que c'est Jésus, ce Messie, donc cet homme dont ils ont entendu parler, qui est en train de passer. Et ils en profitent pour l'interpeller. Et ils crient. Ils ne savent pas vraiment où il est. Hein. Il y a la foule, il est là au milieu. Et ils crient. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Imaginez-vous le bourdonnement, Et ces deux hommes qui sont là et qui essayent de se faire entendre, ceux que, vous savez, les handicapés de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui, certains se plaignent, mais, et on peut les comprendre, mais à l'époque, les handicapés, ils se débrouillaient, quoi. Et là, il fallait qu'ils se débrouillent, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont crié. Et la foule, au lieu de les aider et les amener à Jésus, ils essayaient de les faire taire et de les faire asseoir, sans doute, et rester de « vous dérangez pas ». Alors ils redoublent de puissance, sans doute. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Il fallait que Jésus les entende. Il voulait que Jésus les entende et s'arrête. Et Jésus vient les voir. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Deux aveugles qui viennent voir Jésus. Et Jésus qui vient et fait « Qu'est-ce que tu veux ?» On rigole, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Vous savez ce que moi j'aurais répondu ? Et tu sais bien quel est mon problème. Tu es Dieu, non ? Tu sais bien quel est mon problème. Vous savez quoi ? À chaque fois que je fais ça, Jésus fait demi-tour et il s'en va. Mais tu sais bien quel est mon problème, tu es Dieu. Il s'en va. Mais aie pitié de moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu le sais bien. Vous comprenez? C'est pas que Dieu n'est pas autonome. C'est pas qu'il sait pas. Évidemment, il le sait. Mais est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que toi, tu sais vraiment ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce que toi, vraiment, tu es arrivé au bout du bout? Est-ce que tu as compris, non pas quelle est ton envie du moment, que tu aimerais que le Seigneur arrange, mais quel est ton besoin profond? Le Seigneur ne veut pas répondre à nos demandes. Il veut répondre à nos besoins. Que veux-tu que je te fasse ? Dis-le-moi. Ils auraient pu crier longtemps, « Aie pitié de nous !» Jésus n'aurait pas agi. Lorsqu'il a guéri l'homme à la main sèche, il lui a dit « Étends ta main ». Son besoin était criant et il savait qu'il ne pouvait pas bouger sa main. Mais il lui a dit de faire quelque chose d'impossible. Vous comprenez ? Lorsque le Seigneur Jésus nous parle, lorsque le Seigneur Jésus veut agir dans notre vie, il va aller à la chose essentielle. Il va parler non pas à notre esprit superficiel, mais il va parler à nos profondeurs. Parce que c'est dans le cœur des choses, dans le cœur de notre âme, de notre être, que se trouve le problème. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus veut que nous lui disions ce qu'il doit faire, parce qu'il veut savoir si nous avons compris quel est notre besoin profond. Je veux, Seigneur, que tu me donnes la vue. Je suis là, au bord du chemin, depuis si longtemps. Et aujourd'hui, tu passes. Donne-moi la vue pour que je puisse te voir. Et vous savez, Jésus, c'est pas un robot, n'est-ce pas ? C'était un homme. Et la réponse que ces hommes ont fait l'a ému. Ému de compassion. C'est pas qu'il était ému parce que c'était de pauvres aveugles dont personne ne voulait. Il était ému à cause du sens spirituel des choses. Ces hommes qui sont devenus aveugles depuis la création, depuis Adam et Ève, l'homme est devenu aveugle. Ça fait des siècles que Dieu se coltine des aveugles, des gens qui pensent voir et qui, de leur cécité, agissent et font des choses au nom de Dieu. Et là, il y a ces deux aveugles qui savent qu'ils sont aveugles, qui veulent le voir, lui. Est-ce que nous voulons vraiment voir Jésus ? Il toucha les yeux des aveugles qui retrouvèrent la vue et se mirent à le suivre. Lorsqu'on a vu Jésus, vraiment, on n'a qu'une envie, c'est de le suivre. Au début de son ministère, il n'autorisait pas toujours, mais là, ils ont suivi. Et la guérison des aveugles, c'est un signe qui devait servir à identifier le Messie. À plusieurs endroits dans les prophètes, on peut le lire, mais j'ai juste pris Ésaïe 29, versets 16 et 18. « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. » Jésus a surtout était écouté, entendu par les personnes aveugles, sourdes, pauvres. C'était son public. C'était ceux qui véritablement croyaient en lui. Et, n'est-ce pas, Jésus était animé d'une compassion sincère pour tous ces gens, pour les pauvres. Et la compassion pour les pauvres, les démunis, les gens qui ont des problèmes, c'est une manifestation du Saint-Esprit en nous. Il ne faut pas essayer de lutter contre ça. Si le Seigneur nous amène à vouloir aider les pauvres, il faut le faire. Il ne faut pas résister à ça. Comment est-ce que nous considérons les plus démunis ? Je sais que les Alsaciens sont durs parfois avec les gens qui sont démunis. Hein, on les considère parfois comme des paresseux, comme des gens qui ne veulent pas travailler. Peut-être c'est vrai, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Jésus aime les pauvres. Il aime les misérables. Il aime les prostituées. Il aime ceux qui sont méprisés. Il aime ce que personne n'aime. Et à chaque fois que nous refuserons d'aimer quelqu'un, il faut savoir que Jésus, lui, va venir et va l'aimer. Mais si nous ne le faisons pas, alors que nous disons être représentants de Christ, alors nous avons un problème. Alors nous avons du souci à nous faire. Ils continuent leur route vers Jérusalem et ils arrivent à Bethphagé. Bethphagé, c'est au-dessus de. C'est pas loin, c'est au niveau du Mont des Oliviers, sur la crête. Et donc Jérusalem est déjà en vue, au loin. Et c'est à peu près 4 kilomètres. Et là, Jésus envoie devant lui deux disciples au village pour aller chercher un ânon sur lequel il doit monter pour entrer dans Jérusalem. On lit ça dans Matthieu 21, à partir du verset 1, donc je vais le lire. « Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse à l'ânon, et l'ânon mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» C'est la première fois que Jésus accepte d'être identifié comme un roi. N'est-ce pas ? À d'autres moments, il a préféré partir parce qu'il savait, notamment après la multiplication des pains, il savait qu'ils allaient le prendre pour faire de lui un roi. Et ça, il ne voulait pas à ce moment-là. Mais là, il accepte. Et le chemin que Jésus est en train de faire, pour se diriger donc vers Jérusalem, c'est le même chemin que David avait accompli lorsqu'il a dû quitter Jérusalem pour fuir Absalom, qui voulait prendre le trône. Et donc, n'est-ce pas, c'est intéressant de noter que finalement, c'est bien le rejeton de David qui revient récupérer le trône à Jérusalem, le véritable trône. David a dû fuir et Jésus revient par le même chemin, dans le sens inverse. Il dit « Je vais m'installer définitivement sur le trône. » Et c'est aussi un accomplissement du prophète Zacharie, dans Zacharie 9:9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste. » Et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et ce qui m'a depuis longtemps touché dans ce passage, c'est si on vous dit qu'est-ce que vous faites avec cet âne et cette ânesse, cet ânon et cette ânesse, vous répondrez le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. L'âne était la monture des rois dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça, n'est-ce pas ? Mais c'était la monture des rois. David montait un âne. C'était la monture des rois, des princes. Mais l'âne n'est pas un roi, n'est-ce pas ? Mais le roi a besoin d'un âne. Parce qu'un roi sans monture n'est pas tout à fait un roi. Est-ce que nous sommes d'accord d'être identifiés à un âne ? Est-ce qu'en nous regardant, les hommes et les femmes qui nous entourent, est-ce qu'il voit un âne ou est-ce qu'il voit le roi ? Suivez-moi bien. Le roi vient à toi, il est juste et victorieux et il est humble monter sur un âne. Dieu se sert d'âne, comme vous et moi, comme monture. Il en a besoin. C'est pas qu'il n'est pas Dieu sans nous, mais il est vraiment Dieu s'il peut, dans notre vie, il est vraiment Dieu s'il peut nous utiliser comme des ânons pour aller vers le monde, leur apporter la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. Il a besoin de vous pour mettre en valeur le Sauveur. En fait, c'est la monture qui met en valeur le roi. Ce roi qui est juste. Et donc, l'âne est en train de véhiculer quoi ? La justice. L'âne est en train de véhiculer l'humilité du Fils. Il est victorieux. L'âne est en train de véhiculer la victoire de Dieu. Bien-aimés, si nous, nous voulons être autre chose qu'un âne, le Seigneur ne peut pas se servir de nous. Et il dira, je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin d'un âne. Je vous conseille de faire une étude sur les ânes dans la Bible. Vous verrez que Dieu les utilise beaucoup. Pensez à l'âne de Balaam. L'âne de Balaam a vu des choses que le prophète n'a pas vues. Peut-être qu'il vaut mieux être un âne qu'un prophète, n'est-ce pas ? Je pense que cette histoire est aussi une parabole, d'une certaine manière. Le Seigneur en a besoin. Est-ce qu'il a besoin de nous, ou est-ce que nous sommes faits de telle manière qu'il n'a pas besoin de nous ? Jésus est le roi. Il a été honoré en entrant dans Jérusalem. Est-ce qu'il est honoré aujourd'hui ? Lorsqu'il entre dans notre cœur. Tout ce petit groupe continue et ils arrivent cette fois-ci à Jérusalem. On est au verset 12 du chapitre 21. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il a fait. Et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui !» leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Au passage, notez la différence qu'il y a entre l'intervention des juifs, des religieux et ces aveugles. Jésus vient de guérir des aveugles et des boiteux. Il a guéri juste avant deux aveugles qui voulaient le voir, qui voulaient voir Et là, les religieux, les principaux sacrificateurs et les scribes, qui sont les mêmes qui l'ont crucifié une semaine plus tard, sont indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus a faites. Est-ce que c'est compréhensible d'être indigné lorsque des choses merveilleuses s'accomplissent? Dans le temple, Jésus se met à renverser les stands, les changeurs d'argent, à chasser hors du temple ceux qui faisaient du commerce. À cette époque, les stands des marchands étaient dans ce qu'on appelle la cour des gentils, la cour des païens. C'était un endroit qui était destiné normalement à, entre guillemets, l'évangélisation, c'est-à-dire à attirer les païens pour qu'ils rendent un culte à Dieu. Initialement, les stands étaient là pour que aussi les croyants qui viennent de l'étranger, qui venaient de l'étranger, puissent, s'ils n'avaient pas eu la possibilité d'emmener avec eux des bêtes pour le sacrifice, qu'ils puissent venir les acheter là, sur place. Et donc, le problème, c'est qu'à force, et souvent c'était le souverain sacrificateur qui était responsable, qui gérait le lieu, à force, n'est-ce pas, il y avait du commerce qui se mettait en place, et aussi de la fraude, parce que bon, les gens qui venaient avec leurs propres animaux, les inspecteurs du temple regardaient l'animal, parce qu'il fallait qu'il soit sans défaut, n'est-ce pas? Donc, hop, s'il y avait une petite poussière là, il avait un défaut. Donc, tu peux pas celui-là, tu peux pas, tu es obligé d'acheter sur place. Et évidemment, à des prix très très chers. C'est des choses qu'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous achetez une glace au bord de la plage dans le sud, vous allez la payer 10 fois plus que si vous allez au supermarché. Donc, ça, c'est le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Il n'y a rien de spirituel là-dedans, si ce n'est une sorte d'aversion spirituelle, mais il n'y a rien de très constructif dans ces choses. Le problème, c'est que, n'est-ce pas, même les chrétiens en arrivent à ça, à commencer à commercer sur les choses que Dieu fait, sur l'ambiance que peut nous apporter certaines réunions. Il y a des gens qui ont fait des grandes réunions d'évangélisation en utilisant ces principes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a malheureusement des ressemblances entre ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait dans certaines situations aujourd'hui. Il ne s'agit pas juste de pointer le doigt, n'est-ce pas ? Il s'agit de voir les choses et d'en être conscient. Et d'être conscient que Dieu a les mêmes réactions, celles qu'il avait à l'époque, lorsque Jésus était là, et celles qu'il et les choses telles qu'il les voit aujourd'hui, il va juger de la même façon. Et ça, c'est dans le monde chrétien, mais il y a aussi dans l'Église. Comment est-ce que nous agissons dans l'Église? Et il y a dans notre cœur. Comment est-ce que nous agissons dans notre cœur? Les religieux, au lieu de consacrer le temple à la prière, faisaient du commerce, au détriment des besoins des croyants et au détriment de la sainteté de Dieu. Dans le verset 12, vous lisez « Jésus entra dans le temple de Dieu ». Il n'est pas dit dans la synagogue. Il entra dans le temple de Dieu. Jésus, l'homme, est entré dans un temple d'homme dédié à Dieu. si Jésus est entré ici dans la salle, il pourrait être marqué la même chose. Jésus entra dans le temple de Dieu, dans le lieu que des hommes ont dédié à Dieu. Et il a chassé tous ceux qui souillaient le temple, ceux qui n'avaient rien à faire là. Si nous, nous sommes une église, alors nous sommes le temple de Dieu. Paul le dit aux Corinthiens, n'est-ce pas, lorsqu'il parle du temple en dur, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous, là, toute l'assemblée, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. La communauté, c'est le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit cette communauté, Dieu le détruira. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que Jésus est en train de faire, n'est-ce pas? Lorsqu'il chasse tous les marchands, il est en train de chasser tout ce qui est incompatible avec le temple de Dieu. Ceux qui détruisent le temple de Dieu sont chassés par l'Esprit de Dieu. Comme Jésus a lui-même chassé les marchands du temple. Et dans les églises, parfois, il y a des divisions qui sont le fait de Dieu lui-même. C'est un jugement. Ça ne veut pas dire que les gens sont perdus, qu'ils n'appartiennent plus au Seigneur. Ça veut dire que à un moment donné, Dieu fait le ménage. Si le Seigneur bâtit son Église, et si un homme se met au travers de cela, eh bien, il le mettra de côté. Pour lui parler, sans doute, pour l'amener à la raison, et pour qu'il finisse par réintégrer la volonté de Dieu. Mais il mettra de côté tout homme, vous et moi, si nous nous mettons en travers de son chemin. Et ce qui est vrai pour l'Église locale, c'est vrai pour le croyant aussi, à titre individuel. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Christ entre dans ce sanctuaire, qui est dédié à Dieu, alors il juge nos pensées, notre cœur. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? N'est-ce pas? Lorsqu'on dit « je » tout le temps, ça veut dire qu'on oublie que c'est lui. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça fait aussi référence à cet aspect d'esclave de Christ ou esclave des hommes. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient pas. Nous n'avons pas, si nous disons que nous sommes à Christ, si nous disons que nous vivons pour Christ, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, si la parole dit que nous sommes ses frères, c'est parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés, nous qui étions esclaves de Satan. Il nous a rachetés. Et donc nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et notre esprit appartient à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Toutes les formes de notre vie appartiennent à Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il veut que ça se soit respecté. Et donc il fait le ménage dans le temple. Et c'est la parole de Christ qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. C'est la parole de Christ qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ça, c'est une des marques de la nouvelle naissance. Est-ce que Jésus est venu pour expulser de son temple tout ce qui ne le glorifie pas? La nouvelle naissance, c'est le début de quelque chose. C'est l'entrée de l'Esprit de Dieu dans le temple. Jésus entra dans le temple de Dieu et la première chose qu'il a fait, c'est le ménage. Est-ce que lorsque le Saint-Esprit est venu, il a fait le ménage chez vous, chez moi? Chez moi, je peux vous garantir qu'il l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des trucs à faire, mais il a fait un gros ménage. Je peux vous parler de moi, je ne peux pas vous parler de vous. Et vous savez qu'il n'y a rien à garder. Il n'y a rien qu'on puisse garder pour servir Dieu. Il n'y a rien qui puisse servir le roi, si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et comme tout à l'heure, je vous parlais de l'âne dont Dieu a besoin, eh bien c'est ça. C'est juste un autre mot pour parler d'un homme qui s'est livré complètement à Dieu et que Dieu peut utiliser en toute tranquillité, en toute simplicité. Parce que notre propre justice, dit Esaïe, je crois, est comme un vêtement souillé. Si on vient avec nos forces, avec nos capacités, avec nos dons de naissance, avec les choses qu'on a apprises à l'école, avec les choses qu'on a apprises à l'université ou sur le tas, si on vient avec ça pour servir Dieu, Dieu va nous dire, mais t'es pas un âne, t'es un cheval de course, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin d'un âne, j'ai besoin d'un vase vide. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas un cou raide, une nuque, qu'on n'arrive pas à assouplir. J'ai besoin de quelqu'un qui ne va pas me faire des histoires sans arrêt. Je veux juste quelqu'un qui vit comme moi je vis. Qui est ému de compassion avec les pauvres, qui est humble et qui est victorieux. Je pense que Jésus était en colère, mais ce n'était pas une colère dirigée contre les hommes. Parce que Jésus chasse les marchands et c'est un acte d'amour. Lorsque Jésus vient faire le ménage dans une église locale, c'est un acte d'amour. C'est une œuvre d'amour lorsqu'il vient chez vous et chez moi pour faire le ménage à l'intérieur. On peut être affecté par ces choses momentanément. Mais à la fin, on peut être reconnaissant à Dieu de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Ce texte nous montre qu'il faut redonner le véritable but du temple. Une maison de prière pour tous les peuples. Une cour des païens ouverte pour qu'ils puissent venir voir, sentir, recevoir, être aimés, être aidés, être compris. C'est ça la mission que Jésus a remplie, là, juste avant la croix. C'est ça qu'il a montré, son caractère, sa façon d'être, sa façon de gérer les problèmes, les conflits. Oh, j'aimerais être le premier à côté de toi. Tu vas boire la coupe que je vais boire. Tu vas la boire aussi alors. Alors tu seras un grand. Pour terminer, je vous laisse ce verset de Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà déjà ce que disait Ésaïe et ce que Jésus vient d'accomplir. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains ce matin. Seigneur, tu es en marche vers la croix et Seigneur, ta parole se fait forte. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Nous voulons recevoir le message que tu as pour nous ce matin. Seigneur, que ton nom soit béni et honoré dans nos cœurs, dans cette salle, dans le monde. Dans le nom de Jésus. Amen.